Lettres écrites d'Égypte et de Nubie en 1828 et 1829, écrites par Jean-François Champollion. Deuxième partie de 3 de la 18e lettre. Le lecteur bénévole aimerait vous rappeler ici que Jean-François Champollion est sur le point de décrire, comme il disait, le grand et magnifique palais de Ramsès Meïamoun. Alors voici la suite de sa description de cette œuvre magistrale. Ici, tout prend des proportions colossales. Les faces extérieures des deux énormes massifs du premier pylône, entièrement couvertes de sculptures, rappelle les exploits du fondateur de l'édifice, non seulement par des tableaux d'un sens vague et général, mais encore par les images et les noms des peuples vaincus, par celles du conquérant et de la divinité protectrice qui lui donne la victoire. On voit sur le massif de gauche le dieu Phtah Sotcharis livrant à Ramsès Meïamoun 13 contrées asiatiques, dont les noms, conservés pour la plupart, ont été sculptés dans des cartels, servant comme de boucliers aux peuples enchaînés. Une longue inscription, dont les 11 premières lignes sont assez bien conservées, nous apprend que ces conquêtes eurent lieu dans la 12e année du règne de ce pharaon. Dans le grand tableau du massif de droite, le dieu Amon-Ra, sous la forme de Phré hiéracocéphale, donne la harpée au belliqueux Ramsès pour frapper 29 peuples du nord ou du midi. 19 noms de contrées ou de villes subsistent encore. Le reste a été détruit pour appuyer contre le pylône des masures modernes. Le roi des dieux adresse à Meïamoun un long discours dont voici les 10 premières colonnes. 2 points. Amon-Ra a dit: mon fils, mon germe chéri, maître du monde, soleil gardien de justice, ami d'Amon, toute force t'appartient sur la terre entière. Les nations du septentrion et du midi sont abattues sous tes pieds. Je te livre les chefs des contrées méridionales. Conduis-les en captivité et leurs enfants à leur suite. Dispose de tous les biens existants dans leur pays. Laisse respirer ceux d'entre eux qui voudront se soumettre et punis ceux dont le cœur est contre toi. Je t'ai livré aussi le nord, la terre rouge, l'Arabie, et sous tes sandales, etc. Une grande stèle, mais très fruste, constate que ces conquêtes eurent lieu la 11e année du roi. C'est à la même année du règne de Ramsès Meïamoun que se rapportent les sculptures des massifs du premier pylône du côté de la cour. Il s'agit ici d'une campagne contre les peuples asiatiques nommés Moshaush. Des masses de débris amoncelés couvrent toute la partie inférieure du pylône et enfouissent en très grande partie la magnifique colonnade qui décore le côté gauche de la cour, ainsi que la galerie soutenue par des piliers cariatides formant cette même cour du côté droit. Déblayer cette partie du palais serait une entreprise fort dispendieuse, mais elle aurait pour résultat certain de rendre à l'admiration des voyageurs deux galeries de la plus complète conservation, des colonnes couvertes de bas-reliefs, de riches décorations ayant conservé tout l'éclat de leurs couleurs, et enfin une nombreuse série de grands tableaux historiques. Il a fallu me contenter de copier les inscriptions dédicatoires qui couvre les deux frises et les architraves des élégantes colonnes dont les chapiteaux imitent la fleur épanouie du lotus. Au fond de cette première cour s'élève un second pylône, décoré de figures colossales, sculptées comme partout ailleurs, de reliefs dans le creux. Celles-ci rappellent les triomphes de Ramsès Meïamoun dans la 9e année de son règne. Le roi, la tête surmontée des insignes du fils aîné d'Amon, entre dans le temple d'Amon-Ra et de la déesse Mout, conduisant trois colonnes de prisonniers de guerre, imberbes et enchaînées dans diverses positions. Ces nations, appartenant à une même race, sont nommées Shakalasha, Taonau et Purosato. Plusieurs voyageurs examinant les physionomies et le costume de ces captifs ont cru reconnaître en eux des peuples hindous. Sur le massif de droite de ce pylône existait une énorme inscription, aujourd'hui détruite aux trois quarts par des fractures et des excavations. J'ai vu, par ce qui en subsiste encore, qu'elle était relative à l'expédition contre les Shakalasha, les Fekaro, les Purosato, les Taonau et les Ushasha. Il y est aussi question des contrées d'Aomor et d'Orexa, ainsi que d'une bataille navale. Une magnifique porte en granit rose unit les deux massifs du second pylône. Des tableaux d'adoration aux diverses formes d'Amon-Ra et de Phtah en décorent les jambages, au bas desquels on lit deux inscriptions dédicatoires attestant que Ramsès Meïamoun a consacré cette grande porte en belle pierre de granit à son père, Amon-Ra, et qu'enfin les battants ont été si richement ornés de métaux précieux qu'Amon lui-même se réjouit en les contemplant. On se trouve, après avoir franchi cette porte, dans la seconde cour du palais, où la grandeur pharaonique se montre dans tout son éclat. La vue seule peut donner une idée du majestueux effet de ce péristyle soutenu à l'est et à l'ouest par d'énormes colonnades, au nord par des piliers contre lesquels s'appuient des cariatides, derrière lesquels se montre une seconde colonnade. Tout est chargé de sculptures revêtues de couleurs très brillantes encore. C'est ici qu'il faut envoyer, pour les convertir, les ennemis systématiques de l'architecture peinte. Les parois des quatre galeries de cette cour conservent toutes leurs décorations. De grands et vastes tableaux sculptés et peints appellent de toutes parts la curiosité des voyageurs. L'œil se repose sur le bel azur des plafonds ornés d'étoiles de couleur jaune dorée. Mais l'importance et la variété des scènes reproduites par le ciseau absorbent bientôt toute l'attention. Quatre tableaux formant le registre inférieur de la galerie de l'Est, côté gauche, et une partie de la galerie sud, retracent les principales circonstances d'une guerre de Ramsès Meïamoun contre des peuples asiatiques nommé Robou, teint clair, nez aquilin, longue barbe, couvert d'une grande tunique et d'un surtout transversalement rayé bleu et blanc. Ce costume est tout à fait analogue à celui des Assyriens et des Mèdes, figurés sur les cylindres dits babyloniens ou persépolitains. Premier tableau. Grande bataille. Deux points. Le héros égyptien, debout sur un char lancé au galop, décoche des flèches contre une foule d'ennemis fuyant dans le plus grand désordre. On aperçoit sur le premier plan les chefs égyptiens montés sur des chars et leurs soldats entremêlés à des alliés, les Fekaros, massacrant les Robous épouvantés ou les liant comme prisonniers de guerre. Ce tableau seul contient plus de 100 figures en pied, sans compter les chevaux. Deuxième tableau. Les princes et les chefs de l'armée égyptienne conduisent au roi victorieux 4 colonnes de prisonniers. Des scribes comptent et enregistrent le nombre des mains droites et des parties génitales coupées au rebout mort sur le champ de bataille. L'inscription porte textuellement, 2 points, conduite des prisonniers en présence de Sa Majesté. Ceux-ci sont au nombre de 1000, mains coupées, 3000, phallus, 3000. Le pharaon, au pied duquel on dépose ses trophées, paisiblement assis sur son char, dont les chevaux sont retenus par des officiers, adresse une allocation à ses guerriers. Il les félicite de leur victoire et prodigue fort naïvement les plus grands éloges à sa propre personne. « Livrez-vous à la joie, leur dit-il, qu'elle s'élève jusqu'au ciel. Les étrangers sont renversés par ma force. La terreur de mon nom est venue. Leurs cœurs en ont été remplis. Je me suis présenté devant eux comme un lion. Je les ai poursuivis semblables à un épervier. J'ai anéanti leurs âmes criminelles. J'ai franchi leurs fleuves. J'ai incendié leurs forteresses. Je suis pour l'Égypte ce qu'a été le dieu Mandou. J'ai vaincu les barbares. Amon-Ra, mon père, a humilié le monde entier sous mes pieds. Et je suis roi sur le trône à toujours. » En dehors de ce curieux tableau, existe une longue inscription, malheureusement fort endommagée, et relative à cette campagne, qui date de l'an 5 du règne de Ramsès Meyamoun. 2 points. Troisième tableau. Le vainqueur, le fouet en main et guidant ses chevaux, retourne ensuite en Égypte. Des groupes de prisonniers enchaînés précèdent son char. Des officiers étendent au-dessus de la tête du pharaon de larges ombrelles. Le premier plan est occupé par l'armée égyptienne, divisée en pelotons marchant régulièrement en ligne et au pas, selon les règles de la tactique moderne. Enfin, Ramsès rentre triomphant dans Thèbes. Quatrième tableau. Il se présente à pied, traînant à sa suite 3 colonnes de prisonniers, devant le temple d'Amon-Ra et de la déesse Mout. Le roi harangue les divinités et en reçoit en réponse les assurances les plus flatteuses. Une immense composition remplit tout le registre supérieur de la galerie nord et de la galerie est, à droite de la porte principale. C'est une cérémonie publique qui n'offre pas moins de 200 personnages en pied. À cette pompeuse marche assiste tout ce que l'Égypte renfermait de plus grand et de plus illustre. C'est en quelque sorte le triomphe de Ramsès Meyamoun et la panégyrie célébrée par le souverain et son peuple pour remercier la divinité de la constante protection qu'elle avait accordée aux armes égyptiennes. Une ligne de grands hiéroglyphes, sculptée au-dessus du tableau et dans toute sa longueur, annonce que cette panégyrie, ici, le lecteur bénévole voit, entre parenthèses, 4 lettres écrites en majuscules, H, B, A, I. Donc, une ligne de grands hiéroglyphes sculptés au-dessus du tableau et dans toute sa longueur annonce que cette panégyrie, HBAI entre parenthèses, en l'honneur d'Amon Horus, entre parenthèses ici, l'alpha et l'oméga de la théologie égyptienne, eut lieu à Thèbes le premier jour du mois de Pachon. Cette légende contient en outre l'analyse minutieuse du vaste tableau qu'elle surmonte. C'est pour ainsi dire le programme entier de la cérémonie. L'analyse rapide que j'en donne ici ne sera que la traduction de cette légende ou celle des nombreuses inscriptions sculptées dans le bas-relief auprès de chaque personnage et au-dessus des groupes principaux. Ramsès Meyamoun sort de son palais porté dans un naos, espèce de châsse richement décorée, soutenu par 12 Ouéris, ou chef militaire, la tête ornée de plumes d'autruche. Le monarque, décoré de toutes les marques de sa royale puissance, est assis sur un trône élégant que des images d'or de la justice et de la vérité couvrent de leurs ailes étendues. Le sphinx, emblème de la sagesse unie à la force, et le lion, symbole du courage, sont debout près du trône qu'il semble protéger. Des officiers agitent autour du naos les flabellum et les éventails ordinaires. De jeunes enfants de la caste sacerdotale marchent auprès du roi, portant son sceptre, l'étui de son arc et ses autres insignes. 9 princes de la famille royale, de hauts fonctionnaires de la caste sacerdotale et des chefs militaires suivent le naos à pied, rangés sur 2 lignes. Des guerriers portent les socles et les gradins du naos. La marche est fermée par un peloton de soldats. Des groupes tout aussi variés précèdent le pharaon. Un corps de musique où l'on remarque la flûte, la trompette, le tambour et des choristes forment la tête du cortège. Viennent ensuite les parents et les familiers du roi, parmi lesquels on compte plusieurs pontifes. Enfin, le fils aîné de Ramsès, le chef de l'armée après lui, brûle l'encens devant la face de son père. Le roi arrive au temple d'Horus, s'approche de l'autel, répand les libations et brûle l'encens. 22 prêtres portent sur un riche palanquin la statue du dieu qui s'avance au milieu des flabellum, des éventails et des rameaux de fleurs. Le roi, à pied, coiffé d'un simple diadème de la région inférieure, précède le dieu et suit immédiatement le taureau blanc, symbole vivant d'Amon Horus ou Amon-Ra, le mari de sa mère. Un prêtre encense l'animal sacré. La reine, épouse de Ramsès, se montre vers le haut du tableau comme spectatrice de la pompe religieuse. Et tandis que l'un des pontifes lit à haute voix l'invocation prescrite lorsque la lumière du dieu franchit le seuil de son temple, 19 prêtres s'avancent portant les diverses enseignes sacrées, les vases, les tables de proposition et tous les ustensiles du culte. 7 autres prêtres ouvrent le cortège religieux, soutenant sur leurs épaules des statuettes. Ce sont les images des rois ancêtres et prédécesseurs de Ramsès Meyamoun, assistant au triomphe de leurs descendants. Ici a lieu une cérémonie sur la nature de laquelle on s'est étrangement mépris. 2 enseignes sacrées, particulières au dieu Amon Horus s'élèvent au-dessus de deux autels. Deux prêtres, reconnaissables à leur tête rasée, et mieux encore à leur titre inscrit à côté d'eux, se retournent pour entendre les ordres du grand pontife, président de la panégyrie, lequel tient en main le sceptre nommé Pat, insigne de ses hautes fonctions. Un troisième prêtre donne la liberté à quatre oiseaux qui s'envolent dans les airs. On a voulu voir ici des sacrifices humains en prenant le sceptre du pontife pour un couteau, les deux prêtres pour deux victimes et les oiseaux pour l'emblème des âmes qui s'échappaient des corps de deux malheureux égorgés par une barbare superstition. Mais une inscription sculptée devant l'hiérogrammate, assistante à la cérémonie, nous rassure complètement et prouve toute l'innocence de cette scène en nous faisant bien connaître ses détails et son but. Voici la traduction de ce texte, dont je figure aussi la disposition même. Deux points. Le président de la panégyrie a dit, deux points, « Donnez l'essor aux quatre oies. » Ici, le lecteur bénévole voit quatre colonnes. Alors, la première a pour titre « Amset », la deuxième a pour titre « Sis », S-I-S, la troisième a pour titre « Soumant », S-O-U-M-A-N-T-S, et la quatrième « Kebshniv », K-E-B-H-S-N-I-V. Et ça dit après, « Dirigez-vous vers », et puis dans le même ordre des colonnes de gauche à droite, la première dit « le midi », la deuxième « le nord », la troisième colonne dit « l'occident », et la quatrième colonne est intitulée « l'orient ». Et puis maintenant, ça dit, c'est écrit d'une façon verticale, du haut vers le bas, c'est assez curieux, je vais faire mon mieux pour vous le faire comprendre. La première colonne en dessous donc du titre le midi, ça c'est indiqué « Dites aux dieux du midi ». La deuxième colonne en dessous de le titre le nord, « Dites aux dieux du nord ». La troisième, sous le titre l'occident, « Dites aux dieux de l'Occident », et puis on pouvait s'y attendre, la quatrième sous le titre « L'Orient », « Dites aux dieux de l'Orient ». Voilà. Excusez. « Donnez donc l'essor aux quatre oies », après les colonnes, on continue, « que Horus, fils d'Isis et d'Osiris, s'est coiffé du pchent », que le roi Ramsès s'est coiffé du pchent. Il en résulte clairement que les quatre oiseaux représentent les quatre enfants d'Osiris, Amset, Sis, Soumans et Kebsniv, génies des quatre points cardinaux vers lesquels on les prie de se diriger pour annoncer aussi au monde entier qu'à l'exemple du dieu Horus, le roi Ramsès Meyamoun vient de mettre sur sa tête la couronne emblème de la domination sur les régions supérieures et inférieures. Cette couronne se nommait Pchent. Je vous l'appelle, c'est P-S-C-H-E-N-T. Pchent. C'est celle que porte ici, en effet, et pour la première fois, le roi debout et devant lequel se passe la fonction sacrée qu'on vient de faire connaître. La dernière partie du bas-relief représente le roi, coiffé du pchent, remerciant le dieu dans son temple. Le monarque, précédé de tout le corps sacerdotal et de la musique sacrée, est accompagné par les officiers de sa maison. On le voit ensuite couper avec une faucille d'or une gerbe de blé et coiffé enfin de son casque militaire, comme à sa sortie du palais, prendre congé par une libation du dieu Amon Horus, rentré dans son sanctuaire. La reine est encore témoin de ces deux dernières cérémonies. Le prêtre invoque les dieux, un hiérogrammate lit une longue prière. Auprès du pharaon sont encore le taureau blanc et les images des rois ancêtres dressées sur une même base. C'est en étudiant cette partie du tableau que j'ai pu m'assurer enfin de la place relative qu'occupe Ramsès Meyamoun dans la série des dynasties égyptiennes. Les statues des rois, ses prédécesseurs, sont ici chronologiquement rangées, et comme cet ordre est celui même que leur assignent d'autres monuments de Thèbes, aucun doute ne saurait s'élever sur cette ligne de succession, ces statues, au nombre de 9, portant devant elles les cartouches prénoms des rois qu'elles représentent. Ramsès Meyamoun, comme Ramsès le Grand, Sésostris, ayant marqué son règne par de grands exploits militaires, ces deux princes ont été confondus par les historiens grecs en un seul et même personnage. Mais les monuments originaux les différencient trop bien l'un de l'autre pour que la même confusion puisse avoir lieu désormais. Je me propose de traiter ailleurs de cette importante distinction avec plus de détails. Revenons à la décoration de la magnifique cour de Medinet Abou. On a sculpté dans le registre supérieur de la galerie de l'Est, partie gauche, et dans celui de la galerie du Sud, une seconde cérémonie publique tout aussi développée que la précédente. Celle-ci est une panégyrie célébrée par le roi en l'honneur de son père, le dieu Sochar Osiris, le 27e jour du mois de Hathor. Je possède également des dessins fidèles de cette solennité et la copie des nombreuses légendes explicatives qui l'accompagnent. Il faut passer rapidement sur les scènes de consécration et les honneurs royaux décernés par les dieux à Ramsès Meyamoun et que reproduisent une foule de grands bas-reliefs sculptés dans les registres inférieurs des galeries de l'Est, du Nord et du Sud. Je dois encore mieux me dispenser de noter ici le nom des divinités auxquelles le pharaon présente des offrandes variées dans les 144 bas-reliefs peints qui ornent seulement les 16 piliers des galeries Est et Ouest, non compris tous ceux du même genre sculptés sur le fût des trois grandes colonnades qui soutiennent soit les galeries nord et sud, soit l'intérieur de la galerie de l'ouest. Sur la paroi du fond de cette galerie, ou portique, formée par une double rangée de piliers cariatides et de colonnes, 24 grands bas-reliefs retracent les hommages pieux du roi envers les dieux, ou les bienfaits que les grandes divinités de Thèbes prodiguent au pharaon victorieux. Une série de figures en pied orne le soubassement de cette galerie et mérite une attention particulière. Les légendes hiéroglyphiques inscrites à côté de ces personnages revêtus du riche costume des princes égyptiens, dont ils tiennent en main les insignes caractéristiques, constatent qu'on a représenté ici les enfants de Ramsès Meyamoun par ordre de primogéniture. On a seulement fait deux groupes distincts des enfants mâles et des princesses. Les princes dont les noms et les titres ont été sculptés à côté de leurs images sont au nombre de 9. Savoir, 2 points. Primo, Ramsès Amon-Mael, Basilico Grammat, commandant des troupes. Secondo. Ramsès Amonchichopch, Basilico Grammat, commandant de cavalerie. Tertio. Ramsès Manduhichopch, Basilico Grammat, commandant de cavalerie. Quatrièmement. Frehipefbour, haut fonctionnaire dans l'administration royale. Cinquièmement. Mandushopch, idem. Sixièmement. Ramsès Maitmou, prophète des dieux Fré et Atmou. Septièmement. Ramsès Shahemkame, grand prêtre de Phtah. Huitièmement. Ramsès Amonchichopch, sans autre qualification que celle de prince. Neuvièmement, Ramsès Meyamoun, idem. Les trois premiers, après la mort de leur père Ramsès Meyamoun, étant successivement montés sur le trône des pharaons, leurs légendes ont dû être surchargées pour recevoir les cartouches prénoms ou noms propres de ces princes parvenus au souverain pouvoir. Il faut remarquer aussi, à propos de cette liste intéressante, qu'à cette époque, le nom de Ramsès était devenu en quelque sorte le nom même de la famille, et que le conquérant avait concentré dans les membres de sa maison les postes les plus importants de l'armée, de l'administration civile et du sacerdoce. Les noms propres des filles du roi n'ont jamais été sculptés. Fin de la deuxième partie de 3, de la 18e lettre des lettres écrites d'Égypte par Jean-François Champollion, ainsi que du 20e fichier.